Sériemania, ça continue.
Du 15 au 22 mars, Allociné est à Lille en direct du festival Sériemania, son édition 2024, au cours de laquelle seront présentées plus de 50 nouvelles séries. Je suis Maximilien Pirette et je suis en compagnie de Mégane Choquet.
Salut.
Salut. Et nous serons rejoints en fin d'émission par un invité exceptionnel, Neil Schneider, qui présente la série Le Monde n'existe pas, donc restez bien avec nous. Et en attendant, on se penche sur l'une des thématiques fortes de cette édition 2024 de Sériemania, l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment un thème de société, on peut le dire, qui touche tout le monde. Même nous, les journalistes, on commence à ressentir l'impact de cette intelligence artificielle qu'on retrouve de plus en plus aussi dans la création, dans la fiction, au cinéma notamment, et dans les séries vraiment par petites touches, à tel point que même le président du jury international cette année, Zalbat Manglij, on lui doit deux séries, The OA et Un meurtre au bout du monde, qui mettent beaucoup l'intelligence artificielle en avant et qui la questionnent. Donc vraiment, c'est une thématique centrale dans cette édition, jusque dans son présent du jury.
Et aussi jusque dans sa série d'ouverture. Voilà, l'édition 2024 de Sériemania a démarré sur les chapeaux de roue avec, en projection, en avant-première pour l'ouverture, la série Le Problème à trois corps, série Netflix par les créateurs de Game of Thrones. Et l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle sont vraiment des grosses thématiques de cette série, qui est aussi une série de science-fiction. Mais l'intelligence artificielle est grande partie prenante dans cette fiction. Et on vous invite à écouter notre podcast débrief du problème à trois corps, qui est déjà disponible.
Et comme tu disais, c'est une partie prenante du problème à trois corps, mais en fait, là où on sent que ça commence à infuser dans la société, c'est qu'on en retrouve par petites touches dans deux séries françaises, Le Monde n'existe pas, dont on vous reparlera en fin d'émission avec Neil Schneider, et la série politique Dans l'ombre. En fait, c'est des petits éléments qui montrent que l'intelligence artificielle commence à prendre un petit peu de place dans notre société, dans la manière de raconter les histoires. Mais en fait, dans ce Sériemania 2024, la grosse série qui met l'intelligence artificielle en avant, c'est une série qui s'appelle Rematch.
Rematch, c'est d'ailleurs l'un de nos coups de cœur, oui, de cette édition 2024. C'est une série franco-hongroise et c'est une série qui est inspirée de faits réels. Ça balance entre le biopic et le thriller psychologique. Le pitch est très simple, c'est un combat entre l'homme et la machine.
Voilà.
C'est l'histoire de l'affrontement historique entre Garry Kasparov, l'un ou si ce n'est le meilleur joueur d'échecs
de l'histoire.
Et un super ordinateur d'IBM appelé Deep Blue. Donc c'est vraiment ce combat entre l'homme et la machine, le combat entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un match d'échecs qui a marqué un tournant dans la vision, dans l'appréhension de l'intelligence artificielle. Donc la série suit tous les rounds entre Deep Blue et Garry Kasparov. Et c'est vraiment une série qui joue sur ce combat entre homme et machine, mais aussi beaucoup sur la tension. Ça va au-delà des échecs, ça va au-delà du
Totalement.
Jeu parce qu'on suit aussi comment ce match va impacter la vie de Garry Kasparov dans son intimité, dans sa famille, dans ses relations avec les proches. C'est quelqu'un d'assez solitaire qui est très focus sur son jeu, sur son statut même de meilleur joueur du monde. Et c'est vraiment une série très, très axé sur la psychologie de ses personnages, notamment son personnage principal, évidemment, Garry Kasparov. Et c'est vrai qu'on pense au succès qu'avait eu Le Jeu de la Dame, notamment, parce que les échecs en soi, même si c'est une pratique, même si c'est un sport intellectuel complexe, très complexe pour les néophytes en tout cas, la fiction Le Jeu de la Dame a réussi à en faire vraiment un divertissement haletant, un divertissement prenant. Et je trouve que Rematch réussit aussi à prendre ce parti-là, d'autant plus que c'est inspiré de faits réels,
ouais,
d'autant plus que on touche à la thématique dont on vous parlait au tout début, l'intelligence artificielle qui nous impacte tous et qui nous impactera tous à l'avenir.
Et on ne sait même pas encore dans quelle mesure ça va nous impacter.
Exactement. Et donc cette série, on la doit à Yann Englund, André Goulouni et Bruno Naon, j'ai envie de dire les deux acteurs principaux sont Christian Cook, donc qui incarne Garry Kasparov, et un ordinateur.
C'est son premier rôle à l'écran, vraiment il est assez incroyable, mais non, ce que tu disais effectivement est très juste sur la comparaison avec Le Jeu de la Dame et Rematch. Sans doute que le succès du Jeu de la Dame a eu un impact sur la création de Rematch, mais dans les deux cas, les échecs c'est une toile de fond. C'est vrai que d'un côté t'as quelque chose de très sociétal, donc c'était la série de Netflix, et là t'as quelque chose de, qui, même si la série se passe en 97, est très actuel parce que en fait, c'est à l'époque où Internet commençait à se lancer. Tu vois qu'ils ont des téléphones portables qui ressemblent à des briques parce que à cette époque-là, oui. C'était un peu ça. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est tu parlais de Kasparov, de son statut de, bah, de légende des échecs. Et en fait, c'est la série, comme ça s'appelle Rematch, c'est-à-dire c'est le match retour, parce qu'en fait, il avait déjà battu un ordinateur quelques années auparavant. Sauf
oui,
que son orgueil.
De justesse. Oui. C'est vrai qu'il avait déjà été un peu mis à mal voilà. par la machine d'IBM.
Et là, il y a vraiment ce côté, un peu cet orgueil aussi, de se dire bah, la machine a évolué. Est-ce que moi, je suis obsolète? Et en fait, il veut s'y mesurer. Et en fait, bah, il va quand même découvrir que c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le pense. Et que c'est le cas aussi pour les créateurs de l'ordinateur, qui, eux, évidemment, développent une machine capable de battre un humain et se rendent compte que. Bah, ils ne maîtrisent pas tout, comme des fois aux échecs, en fait, où tu as une stratégie qui est mise à mal parce que fait ton adversaire. Et c'est en ça que la série est vraiment passionnante. C'est que tu peux ne rien y connaître aux échecs, tu es quand même captivé par ce qui se passe, parce que c'est vraiment quelque chose de psychologique entre un humain et une machine qui fait écho à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Mais ça te remet complètement en question aussi, je trouve. Effectivement, ça va bien au-delà des échecs, c'est vraiment... même sur la conception même de ce qu'est un être humain, ça te remet énormément en question sur ce que tu disais. Est-ce que je suis obsolète? Est-ce que je sers encore à quelque chose? Est-ce que j'ai encore un but dans la vie? Est-ce qu'on ne va pas être mis à mal complètement? C'est vrai que ce n'est pas une thématique qui est nouvelle. On l'a vu dans énormément de films de science-fiction, de bouquins de science-fiction. Ouais. L'humanité a toujours été remise en cause par l'avancée technologique, par les machines. Le soulèvement des machines, les machines qui prennent le pouvoir, qui nous écrasent, qui deviennent bien plus intelligentes que nous, c'est une des plus grandes craintes, je pense, de l'humanité.
À aujourd'hui, et oui, en plus.
Et en même temps, les recherches vont dans le sens de donner encore plus de pouvoir à la machine, puisqu'on l'entretient. Et mine de rien, ce qui peut... rassurer, c'est que c'est l'humain qui nourrit la machine.
Oui.
Sans l'humain, la machine ne peut pas penser par elle-même. Il faut bien qu'elle ait des instructions et des indications d'un humain pour fonctionner. C'est à partir de quel moment, si ce moment arrive un jour, que la machine va penser par elle-même. Donc c'est vraiment toutes ces questions-là ultra passionnantes, parfois terrifiantes, mais quand même ultra passionnantes que la série Rematch aborde. Et on se demande aussi si le match est toujours assez juste, puisque Kasparov, il est seul. Il est seul face à la machine, et la machine, elle est entretenue par une quinzaine de super joueurs d'échecs, de super codeurs, de super ingénieurs.
Puis tu vois des serveurs, il y a un nombre incalculable de
serveurs code, ouais.
pour le faire fonctionner. Et voilà, et là où je trouve que tu as raison quand tu dis que c'est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque où ce qui relevait de la science-fiction il y a encore 3 ans, bah, ça devient de moins en moins de la science-fiction. Et ce que montre Rematch, qui se passait en 97, bah c'est que oui, au moment où la première fois que Kasparov a affronté un ordinateur, c'était de la SF, vraiment. Et puis bah, c'est devenu quelque chose de réel, et en fait le match retour, bah, en fait, ça remet une pièce dans la machine de la SF en disant ça va pas être si facile que ça.
Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment une excellente série. Déjà, bon, dans l'écriture, on le dit, voilà, c'est extrêmement bien écrit. Je trouve qu'il vulgarise assez bien quand même les échecs. Parce que on a vraiment l'impression d'être dans une arène. C'est un sport de combat, les échecs. Et on voit très bien que il faut mettre KO la machine. C'est le but de Kasparov. Et du coup, c'est vraiment très bien écrit en ce sens-là. On arrive vraiment à être pris dans l'histoire, on nous prend vraiment par la main, et puis même en termes de mise en scène, je trouve ça vraiment génial, parce que il y a des petites touches pop, c'est bien fait, puis il y a même quelques effets comme dans le jeu de la dame, hein,
ouais.
Quand il y a des plans très rapprochés sur la partie d'échecs, avec les pions qui se déplacent en temps réel, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très très introspectif, on est vraiment dans la tête de Kasparov. Mais on ne peut pas être dans la tête d'IBM. On ne peut pas être dans la tête. dans les câbles, dans les serveurs de la machine Deep Blue. Donc c'est cette peur de l'inconnu, c'est cette peur de ce qu'on ne comprend pas forcément et cette peur de ce qui peut nous dépasser et nous surpasser.
Oui, de ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses que j'aime bien dans cette série, c'est qu'elle live nous fait entrer dans la tête d'un génie. Moi, j'ai évidemment pensé au jeu de la dame sur les séquences avec les pièces qui bougent, ou même tu as un moment où Kasparov il a été mis en échec. Il a été obligé de déclarer forfait sur une manche. Et en fait, après, il revoit le round en question. Et donc, en fait, il se revoit lui-même en train de jouer. Et en fait, il imagine ce qu'il aurait dû faire. Mais ça m'a aussi fait penser un petit peu à la série Sherlock, qui nous faisait entrer dans la tête de ce génie parfois imbitable, qui est le détective consultant. Bah, là, c'est pareil. C'est qu'en fait, on te dit, bah, voilà comment pense un tel génie. Voilà comment... Oui, il est tout seul, mais en même temps, bah, il a une vision que les autres n'avaient pas ou que très peu de gens avaient. Et en fait, on essaie de nous faire comprendre ce que c'est que d'être dans sa tête et ça marche très bien, sans que ce soit trop compliqué, trop tape à l'œil. Le truc des pièces, en fait, c'est à la fois tout simple et en même temps, bah, ça montre qu'il y a une vraie réflexion, il y a de la vraie mise en scène derrière. C'est pas juste te montrer deux personnes qui jouent aux échecs, parce que c'est clairement anti-cinématographique, c'est pas très visuel. En plus, c'est souvent des gens qui réfléchissent comme ça, qui sont concentrés pendant 30 secondes. Bah, là, ils arrivent même à jouer sur le compte à rebours. Vraiment, il y a beaucoup de qualités visuelles et narratives dans cette série.
Et ce qui est vraiment, vraiment très intéressant dans la série aussi, c'est ce côté où tout le monde est impliqué. Enfin, je veux dire, oui. Ça a été un événement majeur. C'était suivi par des millions de personnes. Les serveurs ont complètement cramé. Enfin, il y avait des serveurs qui ont sauté chez IBM notamment parce qu'ils diffusaient le match en direct. Et en fait, tout le monde a vraiment pris part à cette histoire parce que il y a eu des développements aussi de forums de la part de joueurs d'échecs, de joueurs amateurs ou de joueurs un peu plus professionnels qui ont voulu aussi prendre part à cette histoire-là et à vouloir combattre aussi la machine. Donc c'est vraiment limite, c'est plus le soulèvement des machines, c'est le soulèvement des humains contre la machine. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc ça se développe au fur et à mesure de la série, surtout dans l'épisode 2 notamment. Voilà, nous on a vu deux épisodes en avant-première grâce au festival Sériemania. Évidemment, c'est toujours frustrant de ne voir que le début d'une série, donc on a très envie de voir la suite. Malheureusement, on n'a pas encore de date de diffusion, mais on a un diffuseur quand même. Voilà, ce sera sur Arte. On l'espère très vite, en tout cas.
Oui, surtout qu'en fait, moi, une des questions que je me posais en voyant la série, en fait, je me disais, mais comment tu peux tenir 6 épisodes sur ça? Et en fait, la fin de l'épisode 2, sans trop spoiler, je me suis dit, ah oui, je comprends mieux, parce que déjà, je ne comprenais pas non plus aussi le but de la série, parce que tu te dis, mais est-ce que tu vas glorifier l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu vas montrer à travers ça? Et en fait, ça parle en fait de la manière dont les humains eux-mêmes, en fait, même les gens qui ont créé cette machine, se sont rendus compte qu'ils ne maîtrisaient pas tout. Et en fait, c'est en ça que c'est intéressant, que ça nécessite d'avoir plus d'épisodes et que ça fait vachement, vachement écho à aujourd'hui.
Absolument. Donc, rematch, bientôt sur vos écrans, sur Arte.
Grâce à Arte. Et Arte, justement, c'est le diffuseur de l'une des autres séries phares de ce festival, Le Monde n'existe pas, une mini-série en 4 épisodes avec Neil Schneider, on vous l'avait promis. Nous allons discuter tout de suite avec lui. Neil Schneider, bonjour.
Bonjour.
On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous ici dans ce podcast. Donc, tu es à Sériemania pour présenter la série Le Monde n'existe pas, qui est l'adaptation du roman de Fabrice Imbert. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer de quoi parle cette série et ce qui t'a attiré dans ce projet et dans le rôle de Adam que tu joues?
Alors, c'est un thriller paranoïaque en 4 épisodes et c'est l'histoire d'une enquête d'Adam Volman. En fait, il a un pseudonyme, il s'appelle Corentin, et c'est un journaliste qui travaille dans un bureau, et un jour aux informations, il est au courant d'un meurtre, d'un féminicide, d'une jeune femme de 19 ans, dans le village là où il a grandi, et le suspect numéro 1 est son idole de jeunesse. Il est persuadé que c'est impossible que cette idole ait tué cette femme et il décide d'aller sur le terrain et de faire sa propre enquête. Ça va se transformer en enquête intime et il faut dire qu'il s'est fait abuser, il a été victime de violence quand il était jeune dans cette petite ville du Nord. Et du coup, il va confronter, il va voir, il va retrouver tous ces fantômes, tous ces bourreaux, et sous un pseudonyme, Adam Vollmann, qui est son pseudonyme d'écrivain. Et il sera pas reconnu. Voilà.
Et c'est un rôle dans lequel tu t'es vraiment transformé physiquement, parce que donc tu as les cheveux très courts, tu as pris beaucoup de muscles. Est-ce que c'est le réalisateur Erwan Leduc qui a eu cette idée, ou est-ce que c'est toi qui, pour te mettre dans la peau de Adam, a décidé de te transformer comme ça?
Non, alors moi, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée que je trouve intéressante pour jouer, pour incarner un rôle, c'est celle du corps, quoi. C'est-à-dire que ça me permet, je trouve que quand t'as pas ton corps, t'as vraiment le corps du personnage, ça te permet déjà de raconter il y a quelque chose qui se raconte sans avoir besoin d'utiliser les mots ou d'autres situations. Je trouve que d'avoir ce regard presque parfois enfantin et ce corps fabriqué, construit, ça raconte aussi, avec les cheveux très ras comme ça, ça raconte une sorte de violence, de construction de quelqu'un. C'est vraiment du body building, quoi. Et c'était l'idée d'Erwan. Et je trouvais que c'était une super idée, quoi. Donc ça a été plusieurs longs mois de salle de sport et de régime et d'entraînement, voilà.
Tu parlais de retour au passé un petit peu quand il retourne dans son ouais. village natal. Il y a ce côté effectivement très paranoïaque entre retrouver ces bourreaux du passé, que ce soit les anciens camarades de l'école ou même la famille, le cercle familial. Et il y a cette enquête en même temps qu'il mène, et il y a ces côtés un peu entre flashback, un peu même des scènes qu'il imagine, un peu il s'écrit un peu une histoire, il se réécrit même une histoire, et je trouve que tout ce côté là même dans la mise en scène ou dans l'imagerie, il y a un côté qui me fait beaucoup penser à Twin Peaks, notamment. Et je me demandais si on se demandait si c'était une grosse influence sur la série, ce côté là très décalé, avec des thématiques très très fortes et très dures à voir et à voir dans la série, mais il y a ce côté un peu décalé, un peu onirique parfois aussi à certains moments.
C'est un rapport un peu distordu de la réalité, quoi. Un moment où on ne sait plus, il y a une scène comme ça où il prend des somnifères, il s'endort dans le gazon, on ne sait pas si ce qu'il entend est réel ou pas. Et puis il a créé une atmosphère aussi, où on ne sait plus si on doit faire confiance à ce qu'on voit ou pas. On ne sait plus si c'est dans sa tête ou si ça se passe vraiment. Et comme il y a une utilisation des images avec de l'intelligence artificielle, et que nous, le spectateur, on voit une image, on ne sait même plus à un moment si on doit faire confiance à ce qu'on voit. Et il y a un rapport, entre une très forte intériorité chez ce personnage-là, et il part très vite dans une sorte de délire, quoi. Donc à un moment, il y a quelque chose, les frontières se floutent un petit peu entre le délire et la réalité.
Ouais, même pour le spectateur finalement, parce que un truc que je trouve très drôle, c'est que l'un des premiers personnages qu'il rencontre, c'est une femme qui s'appelle Janine Tutor, qui est vraiment le verlan de Tortue Ninja, qui a vraiment son sac à dos, on dirait une carapace. Et ça fait penser aussi à Twin Peaks aussi, c'est quelque chose de très sombre. Et d'un coup, t'as ce petit décalage, ce personnage sorti de nulle part, qui est très haut en couleur, et vraiment t'es dans cette étrangeté, et en fait nous aussi on est perdu, mais dans le bon sens du terme.
Et parfois, vous avez tout vu ou pas?
On a vu que la moitié.
Donc on est frustré,
mais on sait,
on veut voir la suite.
Surtout qu'on sait que contrairement au roman, il y aura une vraie fin, que Erwan et sa co-scénariste ont inventé la fin qui n'était pas aussi explicite dans le roman. Mais on veut voir cette fin, et en plus on sait que la série sera diffusée à l'automne, donc dans longtemps, donc on est très 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 frustrés.
Plus ça avance, plus évidemment on va vers David Lynch, plus
parfait.
C'est une sorte de cauchemar éveillé, et parfois il y a un humour presque hyper grinçant, où on sait pas si tu dois rire ou pas, si ça fait peur ou c'est ridicule ou c'est drôle, et il s'amuse vraiment avec les différents registres et entre l'imaginaire, l'onirisme et le réel.
Ouais, parce que quand on pense à Twin Peaks, c'est ce parallèle, je trouve, entre Dale Cooper et quand il parle à Diane dans son dictaphone dans sa voiture, et à Adam quand il parle à Cyril, l'IA de la voiture qu'il est obligé de louer pour rester dans son village. Je trouvais ce parallèle assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a une évolution quand même dans l'écriture de séries depuis toutes ces années. Ouais. Et donc introduire l'intelligence artificielle dans un univers aussi décalé que ça, je trouvais ça vachement intéressant. Et ça raconte beaucoup de choses aussi sur le storytelling et la manière d'écrire une série.
Exactement. Puis même le storytelling, je pense que c'est vraiment une des thématiques de la série. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... tout est storytelling finalement, tout est récit, chacun a son récit et c'est une manière de... C'est comme si la vérité finalement était... qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce qu'il y en a une? Et on dirait que l'important finalement c'est d'avoir juste une bonne histoire, d'avoir un bon récit, et comme si la vérité finalement c'était simplement l'émotion, quoi. Et c'est finalement c'est une sorte de dédale où c'est, on peut très vite se perdre là-dedans. Et moi ça me fait penser aussi à ce film de Scorsese, Shutter Island.
Mmh. Ah bah totalement.
Ah oui, totalement. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est en plus la série et le roman Le Monde N'Existe Pas, c'est vraiment un récit sur la manière dont on raconte des histoires, dont on se raconte des histoires.
Exactement.
C'est ce que tu le disais. Ton personnage en fait a changé de nom.
Ouais.
Il s'est inventé une nouvelle vie et même en tant qu'acteur, ça doit te parler parce que comme tu nous parlais du fait de prendre du muscle, de te couper les cheveux courts pour...
Il s'est créé une autre identité,
c'est
en
ça.
Fait.
Et en fait, les acteurs aussi finalement en fait racontent les histoires à leur manière, des fois à travers leur corps.
Absolument. Mais oui, c'est vraiment une histoire de récit, quoi.
Ouais.
Quelqu'un qui se réinvente, qui se trouve une autre identité. Est-ce qu'on peut finalement choisir qui on est? Ou finalement on est forcément rattrapé par ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu ou si c'est ce qu'on invente, quoi? Et la question se pose d'autant plus que le personnage est écrivain.
Oui.
Mais à la fin, je vais pas vous spoiler, mais ce qui est intéressant, c'est il y a plein de petits indices justement aussi comme chez Lynch, il fait souvent par des objets, par un moment. Je vais rien vous dire, mais il y a une actrice qui joue au début, une de ses collègues journalistes qu'on va retrouver à la fin dans un autre rôle.
Ok. Ah, ça donne encore plus envie de voir la suite.
C'est intriguant.
Mais je pense que c'est vraiment une série qu'on a envie de voir. Je pense que ça se termine. En plus, elle n'est pas très longue. Ça dure 3h45 en tout et pour tout. Mais qu'on peut vraiment revoir 2-3 fois pour. Mais finalement, il y a des clés. C'est quand même un peu ouvert. Ça laisse en tout cas une ouverture à une interprétation. On se dit peut-être que tout était dans sa tête, quoi.
Ouais, parce qu'il y a une réplique vraiment dans le premier épisode. Qui pour moi est l'une des clés de lecture de ce qu'on a vu, c'est en fait cette opposition quand on lui dit dans un film quand tout accuse une personne c'est une fausse piste, dans la vraie vie en général non, t'es sur la bonne voie. En fait il y a ça aussi, cette confrontation entre la fiction et la réalité. En fait je pense qu'on a trouvé que la série était passionnante aussi à ce niveau là en fait, ce qu'on peut lire au-delà de l'intrigue qui nous captive.
Ouais. Exactement. Non, puis même sur lui, sur ce qu'il projette, par exemple, quand il retrouve ses bourreaux, il les retrouve 15, 20 ans plus tard, ils ont changé, finalement. C'est-à-dire que lui, qu'il les voyait quand il était jeune comme des espèces de monstres, ces monstres-là, ils sont devenus directeurs d'école, ils sont devenus pères, ils sont devenus...
Survivalistes.
Survivalistes, dans le sens que c'est plus les monstres, et ils sont, c'est encore un autre récit. Et il y a plusieurs, c'est la confrontation de tous ces points de vue-là, finalement, notamment sur sa mère, lui, c'est pas, ce qu'il a vécu sur sa mère, il confronte son point de vue à quelqu'un d'autre qui voit sa mère d'une manière totalement différente, et finalement c'est qui cette mère, c'est qui, est-ce que c'est son point de vue on n'est pas forcément qu'une seule chose, quoi. Et ça amène une sorte de énormément de complexité, quoi, à cette série.
Ouais, bah, c'est vrai que du coup, comme on a vu que la moitié, c'est assez frustrant. On a vraiment envie de voir la suite de ce que tu dis. Ça donne encore plus.
Tu vends très très bien ces
chaînes.
Et donc,
je l'adore.
Ouais. Donc ça, on pourra la découvrir prochainement, dans quelques mois sur Arte. Et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que tu es présent dans plusieurs séries. La plus récente, c'est D'argent et de sang de Xavier Giannoli, voilà, qui a cartonné sur Canal+. Ouais, je crois que fin février, on était déjà à plus de 25 millions de visionnages. Là, on a 35. Ouais, okay. Donc on a le plate super. Donc 35 millions. Donc c'est vraiment incroyable. Mais on t'avait vu aussi dans Odysseus de Stéphane Giusti, qui était d'ailleurs présenté à Cérémonia il y a longtemps, c'était au Forum des Images. Ça fait un petit moment. Il y avait aussi Paris, etc., de Zabou Breitman,
Ad Vitam
de Thomas Caillé, donc réalisateur notamment du Règne Animal récemment. Ouais. Et puis Totem aussi, qui était sur Prime Video. Donc voilà, t'es apparu dans beaucoup de séries. Est-ce que toi, en tant que spectateur, tu consommes aussi beaucoup de séries, et qu'est-ce que t'aimes comme série à regarder?
Je consomme énormément de séries. Je trouve que c'est un format vraiment que j'adore, quoi. Permet de développer, de s'attacher à des personnages, de suivre. J'ai l'impression de lire un roman quand c'est bien fait, vraiment de suivre longtemps les personnages, et ça permet un développement. C'est un format que j'aime beaucoup. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai là? Je viens de commencer Le Régime. Je suis assez fan.
Avec Kate Winslet.
Avec la fabuleuse, l'immense Kate Winslet. Et Mathias Schoenaerts aussi, qui est vraiment très impressionnant. J'ai adoré The Curse, que j'ai pas encore terminé. Il me reste deux épisodes, mais aussi une espèce d'atmosphère. Puis creuse un truc, une espèce de très bizarre, de malaise, et de personnages qui sont bourrés de culpabilité à la limite du paranormal, du fantastique, je trouve ça. Et il y a un registre aussi d'humour que j'adore. Je suis hyper fan de Benny Safdie, des frères Safdie en général. Je consomme beaucoup de séries, en fait. Hein. J'essaie de presque tout voir. Je suis fan d'une série qui s'appelle Years and Years.
Ah oui. Il ne faut pas revoir aujourd'hui. Je pense, parce que si tu fais la comparaison de ce qui s'est passé depuis.
Ouais, moi, j'ai découvert cet été.
Déjà, à l'époque de la diffusion, c'était tétanisant.
C'était terrifiant,
Mais c'est, tout est en train d'arriver. Quoi.
Voilà, c'est ça. Le mot visionnaire, on l'utilise un peu à travers. Non. Malheureusement, dans ce cas présent, c'était adapté.
Ouais. Non, c'est un génie, ce gars. Et sinon, j'ai adoré, Normal People. Je suis hyper fan de cette série.
Tellement beau.
C'est magnifique. C'est magnifique. Les deux, quoi. Daisy,
Edgar Jones et Paul Mescal
sont hallucinants, quoi. Hallucinants de sensibilité, puis la qualité d'écriture. Je trouve que justement ça, l'intimité a rarement été aussi bien filmée, quoi. Ouais. Et sinon, en France, j'adore Le Bureau des Légendes. Ouais. c'est pas très original.
Mais c'est un classique. C'est devenu un
classique.
Et est-ce que j'imagine que tu vas vouloir jouer dans d'autres séries à l'avenir, parce que c'est un format qui te tient à cœur. Est-ce qu'il y a un genre de série particulier que t'aimerais tester, que t'aimerais aborder, ou un type de personnage que t'aimerais bien développer dans une série, dans une prochaine série?
Alors c'est vrai que moi, je voulais vraiment faire un détective.
Voilà.
Et j'adore ce que je disais tout à l'heure, le thriller paranoïaque et le polar métaphysique. C'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment, d'allier à la fois le genre, quoi. Je suis assez fan de films de genre, et en même temps quelque chose de plus intime, quoi, qui brasse des questions plus intimes. Donc là, j'étais vraiment hyper comblé sur cette série là après là, j'ai pas de projet de série. Là, je suis en tournage d'un film d'Antonin Baudry, puis je fais un film de Lucas Bellevaux après. Mais j'attends la prochaine excellente série.
Ouais, parce que franchement, dans les séries que tu as fait jusqu'à maintenant, on est quand même à un niveau d'écriture.
Là, l'enchaînement d'argent et de sang, Le Monde n'existe pas, c'est costaud.
J'ai essayé de tenir. J'ai essayé de pas baisser.
Plus, dans des rôles très différents. C'est aussi ce qui nous a marqué sur Le Monde n'existe pas, au-delà de l'aspect physique. C'est que c'est vraiment, il y a un côté, on avait un personnage très très flamboyant. Et là, un personnage qui est très intérieur et qui est très troublé, et dont on découvre les failles au fur et à mesure. Et vraiment, l'enchaînement des deux est impressionnant.
Ouais, j'ai pris énormément de plaisir. C'était deux rôles fabuleux, c'était deux rôles extraordinaires. Un une sorte de flamboyance où Giannoli m'a dit t'as beaucoup joué des hommes blessés, là. Il dit va falloir que tu sois un homme blessant.
La formule est parfaite.
Ouais, et c'était énormément de plaisir dans la démesure, justement, d'avoir peur de rien, de lâcher total, d'en avoir absolument rien à foutre. Et c'était. J'ai adoré. Et en même temps, ces rôles qui sont beaucoup plus en intériorité, je trouve que ça te permet de faire ton film intérieur et de déployer un imaginaire qui est aussi beaucoup plus vaste parfois. Donc j'ai été gâté cette année, c'est clair.
Ouais, bon nous on a eu la chance de voir 2 épisodes sur 4 donc au Festival Cérémonia, puisque Le Monde n'existe pas est en compétition française. Ouais. Mais pour nos auditeurs et auditrices, il faudra patienter malheureusement jusqu'à cet automne sur Arte pour pouvoir découvrir la série. En tout cas, Nils, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce
merci,
podcast.
Merci vraiment. À vous.
Merci
à vous.
C'était super. Infiniment. Et pour vous qui nous écoutez, on se retrouve très vite, toujours à Lille, toujours depuis Cérémonia, pour un nouveau podcast. Salut.
Salut. Merci.
Salut.
Allô Ciné.